bienvenue aux Apatrides Anonymes en direct des studios de choc.ca à l'UQAM en ce beau jeudi soir 11 juin 2026. Il est 18h32 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct sur le site de Choc. Sinon, ben, c'est un balado. Donc, nos émissions sont disponibles sur notre site, celui de Choc, et un petit peu partout sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales. On est aux 2 semaines. On a manqué l'émission il y a 2 semaines. On était très occupé avec d'autres choses. Et donc, ça fait 4 semaines qu'on ne vous a pas parlé, qu'on n'est pas en onde. Et on va avoir d'autres congés dans les prochaines semaines, mais ça, j'en parlerai à la fin de l'émission. Donc, Mathieu est au micro en compagnie de Marie-Ève.
Salut, Mathieu.
Bonsoir, Marie-Ève. Simon est à la mise en onde.
Et oui, seulement la mise en onde aujourd'hui.
Oui,
comme des petites vacances.
Il revient de très loin, oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui à l'émission, ben, on va avoir des sujets, des micros au sujet des actualités françaises, des actualités européennes, mais non françaises. On parlait des enjeux d'immigration ici au Québec-Canada. On parlait aussi des enjeux autochtones au Québec-Canada, de l'extrême droite à l'international et ici. Il y aura l'agenda antiraciste et il y aura 4 pièces musicales en bonus pour vous ce soir, vu qu'on fait une émission en théorie un peu plus courte, surtout Marie-Ève et moi.
Donc, en théorie.
En théorie. Donc, on va voir. Et c'est, je vous rappelle, l'émission Le balado des apatrides qui traite des enjeux de frontières, d'immigration, de racisme, de droits humains et d'excès et de toutes sortes d'autoritarisme. On va en parler au courant de l'émission. Donc, on commence dans quelques secondes. Donc, les actualités européennes, je commence avec le Conseil de l'Europe. Donc, les 46 États membres du Conseil de l'Europe se sont mis d'accord sur un texte répondant au souhait de certains gouvernements d'expulser plus facilement des étrangers condamnés sans être épinglés pour violation des droits humains. Le Conseil de l'Europe était sous pression de 27 de ses États membres, dont le Royaume-Uni et l'Italie. Ces derniers demandaient que la Cour européenne des droits de l'homme, sous l'égide du Conseil, modifie son interprétation des textes dans un sens moins favorable aux droits des migrants. Le grief en question, les blocages de la Cour européenne qui a parfois jugé que des expulsions bafouaient le droit à la vie familiale des étrangers condamnés en les coupant de leur famille ou risquaient de les exposer à des traitements dégradants. Des sujets dont on a parlé régulièrement ici à l'émission. Les pays signataires du nouveau texte avaient particulièrement dans leur viseur les articles 3 et 8 de la Cour européenne qui assurent d'une part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et d'autre part que toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. Pour ce qui est de la prévention de la torture et des traitements dégradants, le texte encourage désormais les États, j'oublie guillemets, à développer et clarifier des cadres nationaux pertinents garantissant l'application effective et adaptée au contexte des droits et suggère de recourir aux assurances diplomatiques, entre guillemets, c'est-à-dire la promesse par le pays vers lequel une personne est renvoyée de ne pas bafouer ses droits.
Hey, ça, on sait que ça marche pas. C'est de la boîte.
C'est de la boîte d'or. Marie-Ève est en forme. Le texte précise l'interprétation des termes traitement inhumain ou dégradant. Par exemple, une qualité de soins dans le pays d'origine inférieure à celle pratiquée en Europe ne peut pas constituer un empêchement d'expulsion maintenant. Les traitements médicaux. De même, le texte reconnaît dans certains pays l'existence, j'oublie guillemets, de facteurs socio-économiques individuels susceptibles d'avoir un impact négatif sur la situation d'une personne expulsée, mais estime que pris séparément, ces facteurs ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant. En terminant, celle-là est pas pire aussi, en matière de respect de la vie familiale, les signataires du nouveau texte appellent la Cour à accorder une grande importance à l'appréciation des autorités nationales qui sont, en principe, mieux placés qu'une cour internationale pour apprécier les conditions et besoins locaux. Donc, en terminant, ben, cette déclaration envoie un message politique au juge de la Cour selon lequel la protection des droits individuels des étrangers devrait jouer un rôle moins important par rapport aux intérêts des gouvernements de maintenir la sécurité dans le pays d'accueil, estime un spécialiste des migrations. Sinon, un expert de l'ONU et 40 ONG épinglent la Suisse pour le renvoi forcé de migrants au Burundi. La Confédération helvétique est l'un des rares pays d'Europe à appliquer les retours forcés dans les pays qu'elle juge sûrs. Or, pour le Burundi, elle se fonde sur une évaluation caduque, alors que ce pays pratique la torture selon plusieurs associations.
Ouais, mais là, c'est vraiment de la torture.
Ouais. 11 ressortissants du pays aux mille et une collines, dont une famille avec enfants, ont ainsi été renvoyés chez eux le mois dernier, donc en mai. Le rapporteur spécial de l'ONU souligne que le simple fait d'avoir fui le pays constitue pour les autorités burundaises un acte de déloyauté envers le régime qui rend tout retour risqué. Sinon, après un an de suspension, l'Autriche a réintroduit le regroupement familial, mais a instauré des quotas dans le but de limiter, à partir du mois de juillet, le nombre des arrivées secondaires en fonction des capacités d'accueil du pays. Le Parlement avait justifié cette suspension en arguant que le système éducatif autrichien et d'autres services, comme les centres d'hébergement, sont surchargés. Le regroupement familial mettait ainsi en péril l'ordre public et la sécurité intérieure. Le regroupement familial est une politique encadrée et garantie par le droit européen sur l'asile et l'immigration, et une suspension de ce droit ne peut devenir définitive sans une validation de l'Union européenne. En 2023-2024, plus de 17 000 personnes sont venues en Autriche via le regroupement familial, la majorité étant des enfants venant de Syrie. Cet afflux énorme impose un fardeau à l'éducation, la santé, les affaires sociales, le logement, l'intégration et augmente la délinquance juvénile, avait déclaré le ministère de l'Intérieur. Ça nous fait penser
bla,
à...
Blablabla, bla, oui, ça y a une petite odeur, là, de...
à nos tâtons de la CAQ, oui. Oui. Après la chute du président Bachar el-Assad en 2024, Vienne a offert la somme de 1 000 euros aux Syriens acceptant de repartir dans leur pays.
Catching, hey, bravo.
Le pays a également été le premier à reprendre les expulsions de réfugiés vers la Syrie. Trois mois plus tard, Vienne a expulsé la première fois un Afghan et souhaite désormais généraliser les retours vers l'Afghanistan aux grandes dames des associations. L'Autriche, où les demandes d'asile ont considérablement baissé en 2025, a également transcrit en droit national le pacte européen sur l'asile qui a été adopté l'année passée. Le gouvernement de coalition entre les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux fait partie de ceux qui poussent au durcissement de la politique migratoire dans l'UE, notamment sur la création de hubs de retour pour les déboutés de l'asile. Et je termine avec les Pays-Bas. Plusieurs manifestants ont été arrêtés en mai après plusieurs rassemblements anti-migrants, parfois violents, devant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ces manifestations interviennent alors qu'une nouvelle loi qui oblige les municipalités de tout le pays à se répartir une part proportionnelle de demandeurs d'asile doit entrer en vigueur le 1er juillet.
Proportionnelle à quoi?
À leur population.
OK.
Ouais. Je ne dis pas qu'un village de 300 personnes va en avoir nécessairement, mais un, mais tu sais, c'est...
Oui, c'est plate.
Accueillir un Ukrainien, puis ayez un Syrien en prime.
Oui, c'est ça.
Bon, l'agence néerlandaise qui gère l'hébergement des réfugiés, l'organe central d'accueil des demandeurs d'asile, doit trouver des places pour 103 000 demandeurs d'asile en 2026. Environ 80 000 places ont déjà été attribuées, laissant encore 23 000 places à pourvoir. Des bâtiments désaffectés ou peu utilisés dans certaines villes ont été trouvés comme solution temporaire. De là, les manifestations. Ouais. Geert Wilders, le leader du parti d'extrême droite PVV, a appelé à l'abrogation de cette nouvelle loi et a exhorté les conseils municipaux à refuser de s'y conformer. Pourtant, le gouvernement néerlandais a adopté plusieurs mesures migratoires strictes et a durci sa politique en termes d'immigration dans les derniers mois. Fin avril, le Sénat a validé le double statut de protection internationale qui aura pour conséquence de restreindre le regroupement familial. Mmh. Le taux de protection des Syriens, la première nationalité demandeuse d'asile dans le pays à 35%, a aussi dramatiquement chuté en un an. En outre, en septembre 2025, Amsterdam et Kampala ont signé une lettre d'intention en vue d'un prochain accord pilote qui prévoit d'envoyer les sans-papiers présents aux Pays-Bas vers l'Ouganda.
Le plan... Kampala, ça c'est le Sri Lanka?
L'Ouganda.
Ouganda, ça. Ah ouais. Bon.
Le plan vise les personnes déboutées de l'asile et originaires de pays voisins de l'Ouganda à être envoyées là. Donc, je poursuis tantôt avec d'autres mouvements anti-immigration en Europe, entre autres ici. Mais pour l'instant, Marie-Ève, j'ai complété mes actualités européennes. Et on va y aller avec une pièce, ça s'appelle « Fudge ». ce n'était pas les goules, Marie-Ève.
Non, c'était Fudge avec la pièce V'là les horribles. Je trouvais que ça fitait bien avec ton sujet, ton dernier sujet.
Oui, tout à fait.
Dédicace à qui exactement, ça?
Geert Wilders
aux Pays-Bas, à l'extrême droite.
Donc, la pièce est tirée de leur plus récent album « Les Horribles » paru en mai et qui occupe la 19e position du palmarès local de Choc. Le groupe va être en concert le 18 juin au Fouf dans le cadre des Franco pour lancer officiellement cet album-là.
Oui, et d'ailleurs, Choc fait une grosse couverture des Franco à partir de ce soir. Plein d'émissions spéciales sont en direct. Oui, c'est la première fois.
Super.
Oui, oui.
Ben moi, je vous parle de problèmes en lien avec les permis de travail en immigration, puis je vais commencer par la scène fédérale. Les avocats en immigration puis les employeurs constatent ces temps-ci ce qui semble être des refus quasi systématiques des dossiers de permis de travail si ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail n'a pas été versée au dossier. Cette étude-là, en fait, c'est un document qui sert à démontrer qu'il n'y a pas d'employé disponible localement pour le poste. Puis si l'étude est toujours en traitement puis il n'a pas été versé au dossier dans un délai de 60 jours, ben Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada le refuse, le dit dossier, sans préavis ni délai supplémentaire. Or, là, ce que les avocats remarquent, c'est que ces refus-là arrivent pile au 60e jour du délai. Et donc, en raison de cette apparence d'automatisation-là, l'avocate Joanie Landry, qui termine en mémoire justement de maîtrise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en immigration, elle a confié au devoir suspecter l'utilisation de l'IA dans ces décisions-là. Selon une autre avocate dont plusieurs clients ont vécu cette situation, le problème viendrait de Service Canada, parce que c'est lui qui traite les dossiers, là, qui traite l'étude, là, qui prendrait plus de temps qu'avant pour traiter les demandes d'études d'impact sur le marché du travail, un temps qui, jusqu'ici, dépassait rarement les 60 jours. Elle pense que les agents de Service Canada ont reçu la consigne de poser plus de questions, d'être plus suspicieux sur les offres d'emploi par rapport au salaire, par exemple, ce qui multiplie les échanges avec les avocats et qui allonge les délais. Mais peu importe à qui la faute, les conséquences sont importantes à la fois pour les travailleurs et les employeurs, surtout en région. Le devoir donne l'exemple du propriétaire d'un resto Saint-Hubert à cette île qui a vu deux de ses 5 travailleurs étrangers se faire refuser leur permis de travail. Et donc, ces personnes-là sont maintenant clouées chez elles sans pouvoir travailler. Puis après un refus, une des possibilités, c'est de déposer une demande de rétablissement de statut. Mais ça peut prendre plus de 7 mois à être traité. Puis ben là, qui peut se permettre d'être au Canada plus de 7 mois sans revenu et sans accès à l'assurance-emploi? Ben personne. C'est d'autant plus absurde qu'un dossier de renouvellement de permis de travail soit fermé après seulement 60 jours quand on sait que IRCC affiche des délais de traitement de moyen de 217 jours.
Ben oui. Fait que là, c'est deux ministères, dans le fond, qui travaillent mal ensemble. Là.
Exact.
Ouais.
Je cite le propriétaire du Saint-Hubert de île qui a investi 50 000 $ dans les démarches d'immigration pour faire venir ses 5 employés d'origine africaine. Ces employés-là ont fait beaucoup de sacrifices pour venir ici et nous aussi, parce qu'on a mis beaucoup de temps pour trouver une solution à notre manque de personnel en région. De voir le gouvernement nous couper l'herbe sous le pied, c'est frustrant. Puis ben au Québec, c'est pas plus rose. Selon un autre article du Devoir, en moyenne, 1500 permis de travail ouverts pour des travailleurs temporaires expirent chaque mois. Mmh. Ça, c'est une moyenne. Là, on parle, ça peut être pour des demandeurs d'asile, des étudiants étrangers qui sont restés ou encore des conjoints d'autres travailleurs étrangers temporaires. Puis si certaines personnes n'ont pas l'intention de s'établir ici, ben celles qui aimeraient le faire, ben se retrouvent dans une espèce d'imbroglio administratif qui pourrait les forcer à quitter le territoire, comme Anne Ponzoye de 55 ans, qui admet avoir épuisé tous les recours pour rester. Il y a 5 ans, elle a accompagné son mari venu faire ses études de pilote d'avion ici. Elle s'est rapidement trouvé un travail dans le milieu communautaire grâce à un permis de travail ouvert associé à celui de son conjoint, mais là, lui, il peut plus prolonger son permis de travail post-diplôme, fait qu'elle, elle peut plus non plus.
Mm-hmm.
Là, ben, il y a Christine Fréchette qui demande à McCarney de prolonger les permis ouverts, comme ça a été fait pour les permis fermés liés à un seul employeur, là, puis pour ceux qui ont été invités par Québec à faire une demande de sélection permanente. En avril, elle a affirmé devant les journalistes avoir senti une ouverture de sa part. Or, dans le même article du Devoir, Il y a deux sources au gouvernement fédéral qui ont au contraire assuré au devoir qu'Ottawa a absolument aucune intention de prolonger le séjour de tous les travailleurs au permis ouvert. Le Parti libéral, tient vraiment à sa promesse de campagne de 2025 de limiter l'immigration temporaire à l'équivalent de 5% de la population canadienne d'ici 2026, ce qui implique de réduire presque de moitié le nombre de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers. Là, normalement, j'aurais fini là, mais là, j'ai-tu 30 secondes, genre, pour une petite nouvelle? Parce que là, on a su que...
Hein?
Oui, c'est ça. Là, hier, le PEC a été...
réanimé.
C'est ça. Donc là, il a été réouvert pour 2 ans. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui étaient admissibles selon les critères là au 10 novembre 2025, quand le PEC a fermé, vont pouvoir présenter une demande qui vont être traitées à partir du 2 juillet jusqu'au 31 octobre. Ça, c'est une première étape. Il va y avoir une seconde période qui va être à déterminer. Pendant ce temps-là aussi, le PTSQ va continuer à fonctionner en parallèle. Donc, en tous les deux programmes, là, il devrait y avoir 29 000 personnes qui devraient rentrer sur ce programme-là. Mais ce qu'on sait pas, ou en tout cas ce qui est pas clair, c'est qu'est-ce qui arrive avec les demandes qui étaient en attente avant la fermeture du PEC le 19 novembre.
Ouais, puis
ça, c'est pas clair.
Il y a le PTSQ aussi, qu'il y a du monde qui a appliqué ça.
Oui, c'est ça, mais comme je dis, le PTSQ, il va continuer aussi. Ouais. Fait que là, ils vont prendre à peu près 15 000 demandes dans chacun des deux programmes.
29 000 en tout, là,
C'est ça.
Mais le cut-off officiel actuellement.
C'est ça, mais là, comme les gens, il faut qu'ils redéposent une demande.
Il y a plein
de
choses qui ne sont pas répondues.
Fait que tu sais, c'est pas clair.
Non, ça sera peut-être pas demain matin.
Fait que peut-être les personnes qui ont appliqué aux deux programmes vont avoir leurs deux dossiers fermés. Hein, ça se peut aussi.
Ou les deux acceptés.
Ouais.
Donc, on va y aller avec quelques notes de musique, puis Marie-Ève nous revient avec les actualités autochtones.
Encore. Concernant les actualités autochtones, je vais me concentrer sur la question de la protection des enfants au Québec. La semaine passée, le protecteur du citoyen a déposé un deuxième rapport dans lequel il souligne que des progrès importants ont été réalisés depuis la commission Vient en 2019, entre autres en ce qui a trait à la prise en compte de réalité des droits des enfants autochtones, mais il dit aussi que des problèmes importants persistent. Donc, sur le plan des avancées, il note une amélioration des relations avec le DPJ au cours de la dernière année grâce à l'embauche d'agents de liaison, de ce qu'on appelle des navigateurs culturels et des coordonnateurs autochtones. Il dit que, selon lui, ça a permis de réduire la méfiance des parents envers la DPJ. Il constate aussi une plus grande ouverture du gouvernement provincial à collaborer avec les communautés depuis la confirmation en 2024 de la validité de la loi fédérale C-92 par la Cour suprême. C'est quand même ironique là comme constat quand on sait que cette loi-là qui affirme les droits des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille avait été contestée devant les tribunaux par le gouvernement Legault. Mmh. Donc, par rapport à la loi C-92, il donne l'exemple d'un projet, le projet Pigar-Viliutik à Inukjuak, au Nunavik, qui prévoit un nouveau modèle d'intervention en Inuktitut. Il souligne que ce genre d'initiative-là, qui émane des communautés des Premières Nations et Inuits, puis aussi des centres d'amitié autochtones, rappelle l'importance de reconnaître et de soutenir leur expertise. Le protecteur du citoyen constate toutefois, comme je le disais, que certaines situations dénoncées dans le rapport Vient ont pas évolué dans le bon sens, voire pas du tout. On parle de jeunes placés dans des centres de réadaptation qui sont privés pendant de longues périodes d'un accès à l'enseignement en raison des barrières linguistiques. Ils sont loin de leur famille durant plusieurs mois et ils reçoivent pas les services auxquels ils ont droit. Le rapport déplore aussi un sous-financement historique dans les services préventifs qui pourrait pourtant éviter parfois le placement justement là, des enfants en centre de réadaptation ou en famille d'accueil. On le sait, les Autochtones sont surreprésentés justement dans le système de protection de la jeunesse. En 2019, ils étaient 4,5 fois plus susceptibles d'être placés. Ça, c'est selon les chiffres même du gouvernement du Québec. Donc, le protecteur du citoyen revient dans son rapport là, sur les raisons de cette réalité-là, dont évidemment les conditions socio-économiques précaires, qui sont elles-mêmes liées à des politiques coloniales puis à des inégalités structurelles et au racisme systémique. Il prend le temps quand même de saluer l'engagement des Premières Nations et des Inuits à faire reconnaître leurs droits. Puis il constate quand même la volonté croissante de collaboration de la part d'acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Mais il rappelle aussi qu'une collaboration, je le cite, fondée sur un rapport d'égal à égal permettrait à différentes initiatives de se multiplier pour ainsi réduire justement la surreprésentation des enfants des Premières Nations et Inuits dans le système de protection de la jeunesse. Parmi les obstacles, il identifie la pénurie de main-d'œuvre, le sous-financement des services, les préjugés ou encore des collaborations inégalitaires dans lesquelles les décisions sont pas toujours portées par les Autochtones eux-mêmes. Il a donc fait 6 recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux, à Santé Québec et à la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ces recommandations-là sont assez techniques et spécifiques.
Ouais,
là.
Ben oui.
Mais en gros, pour améliorer la situation générale, il demande à l'État de passer d'ajustement au cas par cas à des changements structurels parce que, selon lui, le poids repose trop souvent encore sur les épaules des individus alors que c'est au système tout entier de changer. Il demande aussi de clarifier l'application des lois, de financer, ça j'en ai parlé, le financement, et d'agir en véritable co-construction avec les instances des Premières Nations et des Inuits. Il ajoute aussi que les modèles de prise en charge autochtones envisagent ce que le milieu institutionnel appelle de la négligence comme un enjeu structurel qui exige des actions de prévention, un soutien culturellement sécuritaire et le renforcement direct là, des capacités familiales et communautaires avant d'envisager toute intervention plus coercitive.
Ouais.
Je termine en précisant que ce rapport-là repose sur des données qualitatives et non quantitatives, c'est-à-dire sur les témoignages de 110 personnes issues de 15 communautés différentes à travers le Québec. On dit que les CRI et les NASCAPI n'ont pas participé à ce rapport parce qu'ils avaient des enjeux le plus prioritaires, mais on dit que aussi que le bureau du protecteur du citoyen est en contact là, avec ces deux nations-là. Fait qu'on verra, mais c'est quand même le deuxième rapport qui fait qu'il est pas très...
Ouais, l'autre était pire l'année passée. Lui est un peu mieux.
Ouais.
Puis c'est sorti la semaine passée, donc ouais.
Puis deux semaines avant, il y en avait eu un autre aussi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Fait qu'on recommande aux gens d'aller s'intéresser à ces questions. Donc, merci Marie-Ève. On va
oui, le rapport complet il est disponible sur le site du Protecteur du
ben
citoyen.
Ben oui, j'espère que c'est public hein, quand
oui,
même.
Oui, oui.
Donc, on va écouter une artiste autochtone qui est décédée malheureusement récemment, puis je vous en parle après.
Yeah.
de retour en studio aux Apatrides Anonymes.
Sur choc.ca.
Merci. Donc, on vient d'entendre Chris Dexon, la pièce White Gladys 2 de l'album de Visite, sorti en 2025. Chris Dexon est violoncelliste et compositrice CRI. La chanteuse, c'est Jennifer Kreisberg, donc une Canadienne aussi. Malheureusement, Chris Dexon, qui a notamment été nommé au prix Juno, est décédé dans un accident de voiture le mois dernier à l'âge de 45 ans. Elle est originaire de la Première Nation de Tall Cree, à 500 km au nord d'Edmonton. Elle a fait quelques albums. Elle était assez respectée dans le milieu, donc très bonne joueuse de violoncelle et compositrice aussi. Donc voilà, on voulait lui rendre un petit hommage en pensant à une de ses pièces de son dernier album sorti en 2025. Je vais y aller avec... oui, on est toujours dans le gros sérieux. Extrême droite ici et ailleurs. Je reviens sur des faits du passé qui ressurgissent. Je commence avec l'avocat d'un Québécois reconnu coupable d'incitation à la haine contre les Juifs demande un nouveau procès, arguant que le juge avait un parti pris contre son client. L'affaire concerne Gabrielle Soyer-Chaput. Elle a été entendue à la Cour d'appel du Québec en mai dernier, il y a quelques semaines. Le juge Del Negro a condamné Soyer-Chaput en septembre 2023 à 1 an et 3 mois de prison, suivi de 3 ans de probation. L'accusé a interjeté appel tant du verdict que de la peine. L'avocat de Soyer-Chaput a déclaré devant le panel de 3 juges de la Cour d'appel que le jugement avait possiblement été influencé par les gros titres des médias de l'époque sur l'antisémitisme. Je pense que c'est pas mal dans l'actualité de façon permanente. Soyer-Chaput a écrit pour des sites, pour rappel, Soyer-Chaput a écrit pour des sites néo-nazis en ligne tels que le Daily Stormer entre 2016 et 2017. Il a admis avoir rédigé entre 800 et 1000 articles sous le pseudonyme de Charles Zegger. Et c'était évidemment en lien avec le nazisme, la Shoah et compagnie. Donc, à suivre pour le jugement éventuel en appel. Sinon, je vous suggère d'aller voir un article intéressant qui s'appelle « 5 ans après l'attaque terroriste à London, la communauté musulmane toujours en désarroi ». C'est sorti le 6 juin sur Radio-Canada. Je vous lis des petits extraits. La douleur est toujours vive pour bien les résidents de London, 5 ans après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 4 membres d'une famille musulmane. Nous ne voulons pas que les jeunes de cette communauté aient peur, mais c'est difficile, relate Safia Lawendi. Elle pleure toujours son amie Yuma Afzal, morte le 6 juin 2021. Après avoir perdu son amie, elle a cofondé l'organisme Youth Coalition Combating Islamophobia, qui donne des ateliers dans les écoles sur la lutte contre l'islamophobie. Je cite l'imam de London. « Les 5 dernières années ont été et continuent d'être un combat. Il déplore de nombreux actes islamophobes et haineux, tant dans sa ville qu'ailleurs, en Ontario et au Canada. Cette semaine, une mosquée de Moncton a fait l'objet d'un 2e acte de vandalisme en moins d'1 an. » Et je le cite encore, « Il y a une haine réelle qui est propagée à l'endroit des musulmans et si nous ne faisons rien pour la combattre, on voit ce qui arrive. » Faisant allusion à la tuerie dans une mosquée de San Diego, en Californie, le mois dernier.
Ouais.
Petit retour sur la journée des Patriotes avec un article de Pivot intitulé « Pas de facho dans nos quartiers, Nouvelle Alliance, rencontre de l'opposition ». Un rassemblement organisé par Nouvelle Alliance à l'occasion de la journée des Patriotes le 18 mai à Montréal. Sous forte présence policière, une contre-manifestation...
Dans le Parc La Fontaine,
oui. Oui, au Parc La Fontaine de Montréal. Une contre-manifestation antifasciste avait lieu au même moment, organisée par le Front antifasciste populaire. Les manifestants de Nouvelle Alliance étaient quelques dizaines, tandis que leur vis-à-vis est environ 3 ou 4 fois plus nombreux quand même. Donc c'est l'article de Pivot là-dessus, ça vous tente. Sinon, juste avant la bannière des suprémacistes à Shawinigan, il y a eu un autre truc en Mauricie. La tenue d'une prière musulmane dans un lieu privé à Trois-Rivières a mené à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées fin mai à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ils avaient loué l'endroit à l'occasion de l'Aïd al-Adha, une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman.
Ouais.
Bien que cette fête ait été tenue dans un lieu privé, et était tout à fait autorisé. Elle a engendré une multitude de commentaires menaçants sur le web. Je vous en donne 2. Faudrait un bissonnette, dit un imbécile. On ferme les barrières et on met le feu, dit un gros tata. Ces commentaires ont été laissés, c'est peut-être lui le vrai tata. Ces commentaires ont été laissés sous une publication d'un animateur de radio, qui n'est pas nommé, qui a diffusé sur Facebook l'affiche annonçant cet événement à l'hippodrome. Donc, c'est sûr qu'il a mis le feu aux poudres, mais c'était vraiment quelque chose. Sinon, à l'international, des dizaines de milliers de sympathisants du militant anti-immigration et anti-islam Tommy Robinson ont défilé le 16 mai dans les rues de Londres dans une marée de drapeaux britanniques, tandis qu'une marche pro-palestinienne et antiraciste avait lieu en parallèle, un peu moins grosse. Avec cette manif intitulée « Unite the Kingdom », ce militant avait l'ambition de reproduire le succès de sa marche du mois de septembre qui avait vu jusqu'à 150 000 personnes à Londres pour défendre la supposée liberté d'expression. Sont montés sur scène des militants du collectif identitaire français Némésis, dont sa présidente Alice Cordier, vêtue de niqab pour dénoncer l'islamisme en Europe, parmi les nombreux intervenants qui ont pris la parole. Sinon, en Irlande du Nord, cette semaine, des incidents ont éclaté mardi et hier soir à Belfast.
C'est pas chic. Hein?
Non, lors de manifs anti-immigration. Au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais, dont la vidéo a provoqué un choc dans le pays. Des centaines de manifestants se sont rassemblés en plusieurs points de Belfast. Un bus et des voitures ont été incendiés, ainsi que plusieurs maisons. Des habitants ont dû être évacués d'un immeuble. C'était des immigrants, entre autres, quel hasard. Des figures de l'extrême droite britannique, notamment Robinson, avaient lancé plutôt des appels à manifester partout au pays sur les réseaux sociaux, avec le soutien d'Elon Musk, qui les a encouragés à manifester souvent et fortement. De violentes manifs anti-immigration ont secoué l'Irlande du Nord depuis 2 ans, notamment en juin 2025 et à l'été 2024. L'attaque de Belfast survient une semaine après une manifestation émaillée de violence à Southampton pour dénoncer la façon présumément raciste dont la police locale a géré, en décembre, le meurtre d'un étudiant blanc, Henry Nowak, par un jeune homme sikh. Ça, j'ai pas entendu parler, j'ai pas fouillé, là, je vais quand même le mentionner. Et je termine ce bloc avec Montréal antifasciste, qui est très actif ces temps-ci. Et je vous suggère différentes productions qui ont sorti récemment. L'article « Clavardoir privé de Nomos TV, incursion dans le safe space raciste d'Alexandre Cormier-Denis et de ses suiveux », sorti le 8 mai 2026. Il y a Pivot qui l'a repris aussi dans un article. Je vous lis un petit extrait. Le canal de discussion où les abonnés du vlog ethno-nationaliste Nomos TV discute en privé a été infiltré par des membres du collectif Montréal antifasciste. L'observation des échanges entre Nomosiens, Nomosiennes, lorsqu'ils pensent être à l'abri des regards, met en lumière le caractère raciste, sexiste et antidémocratique de leur projet politique. Un discours radical qui contraste avec celui plus modéré qui est destiné au grand public quand Cormier-Denis passe entre autres à Dutrisac. On se rappelle aussi qu'une mobilisation du Front antifasciste populaire avait empêché la diffusion d'une émission de Nomos TV en direct de leur studio du plateau Montréal en avril. Autre très bon article, Montréal la Rouge, une courte
petite
histoire.
Question, oui, vas-y. Nomosienne, c'est quoi ça?
C'est les abonnés à la plateforme de Nomos TV.
Ah, ok.
C'était juste, c'est pas un vrai.
C'est Montréal Antifa qui nomme de même.
C'est pas un vrai terme, là.
Non, je suis pas sûr qu'ils s'autonomment de même.
Non. Puis c'est aussi Pivot qui reprend ce terme-là.
Ouais.
Parfait.
Sinon, l'autre article intéressant, Montréal la Rouge, une courte histoire de l'antifascisme radical à Montréal des années 80 à aujourd'hui. Ça retrace vraiment très bien les dernières décennies au niveau des luttes ici par certains groupes politiques, par certaines organisations et les différentes stratégies. Et en terminant, état des lieux de l'extrême droite au Québec en 2026, brochure publiée en mai dernier pour le Salon du livre anarchiste, qui revient sur un peu tous les acteurs de l'extrême droite et les identitaires au Québec actuellement. Donc, allez sur leur site, encouragez-les, ils font du très bon travail. Donc, c'était Montréal antifasciste, et c'était de la publicité non rémunérée. Donc, voilà. On y va avec quelques notes de musique, et ensuite Marie-Ève nous parle de la France.
Oui, je vous parle effectivement de la France, plus particulièrement des centres de rétention administrative. Le 19 mai, il y a 5 associations, dont la CIMAD, qui ont publié un rapport accablant sur ces lieux d'enfermement dans l'Hexagone et Outre-mer, qui conclut que l'année 2025 a été l'une des plus préoccupantes pour les droits des personnes étrangères en sol français.
Oui.
Un chiffre d'abord, près de 16 500 étrangers ont été enfermés dans les CRA en France métropolitaine en 2025. Comme l'année passée, les ressortissants de 3 pays du Maghreb ont été majoritaires dans les CRA. Algérie pour 30%, Tunisie 11% et Maroc 10%. Ce qui confirme, selon les associations, le ciblage prioritaire de certaines nationalités. Les personnes placées en CRA l'ont été principalement à la suite de contrôles de police, dans 46% des cas, tandis que 29% l'ont été, tu sors de prison puis tu passes pas go et hop, en rétention.
Ouais.
Ensuite, la durée moyenne d'enfermement, elle, s'est allongée, passant de près de 17 jours en 2020 à un peu plus de 33 en 2025. Dans certains centres, elle dépasse même les 45 à 50 jours, alors qu'un peu plus de 2500 étrangers ont atteint la durée maximale d'enfermement de 90 jours. Le problème, selon les associations, c'est que plus la rétention s'allonge, moins elle permet d'éloigner, ce qui leur fait dire que les CRA servent en réalité à enfermer et sont donc détournés de leur finalité première, qui est l'expulsion. Ouais. Personnes dans de courts délais.
Ça devient plus permanent, oui.
Exact. Et selon les associations, ça démontre aussi l'échec de la logique enfermer plus pour éloigner plus.
Déporter plus, oui.
Et les chiffres confirment leurs affirmations, parce qu'en 2025, 36% des personnes enfermées en CRA ont été renvoyées vers leur pays d'origine, ce qui est peu, contre 39% en 2024. Et au contraire, plus de 60% ont été libérés directement, principalement à la suite de décisions judiciaires là, en raison d'irrégularités de procédure et, dans certains cas, juste impossibilité d'éloignement.
Oui.
Les pays, maintenant, la Roumanie, c'est le premier pays de renvoi avec quasiment 700, suivi de la Turquie avec 550 à peu près, puis le Maroc, un peu plus de 500. En revanche, je vous parlais de l'Algérie tantôt, les expulsions vers l'Algérie ont chuté beaucoup en 2025 avec seulement 263 renvois, alors qu'ils dépassaient les 1100 en 2024.
Mais tu sais qu'il y a eu une chicane entre les deux pays. Hein,
c'est ça. C'est à cause de ça.
Retour,
c'est
ouais,
ça. Ouais. Le rapport aborde aussi la situation à Mayotte, parce que le CRA de l'archipel compte pour 96% des 27 568 personnes qui ont été enfermées outre-mer. Mmh. Ça veut dire 21 600 personnes, dont un peu plus de 3 000 enfants. En 2025, plus de 20 000 expulsions ont été réalisées selon la préfecture de Mayotte, soit beaucoup plus que tous les départements de la France réunis. Et les expulsions, ils sont aussi beaucoup plus rapides, parfois le jour même. Autre chose qui distingue Mayotte, une nouvelle loi a réintroduit la possibilité d'enfermer des mineurs en rétention dans des unités familiales spécifiques.
Seulement à Mayotte?
Ouais.
Ah oui.
Alors même que la France a été sanctionnée 11 fois pour cette pratique par la Cour européenne des droits de l'homme. Simon en avait déjà parlé.
Oui.
La durée maximale d'enfermement, qui est actuellement limitée à 3 mois, va s'allonger encore, puisque, ironie du sort, le lendemain de la publication du rapport, le Sénat français a approuvé un texte de loi qui vise à allonger la durée maximale de rétention administrative d'étrangers en situation régulière et jugée dangereux à 210 jours, c'est-à-dire 7 mois. On passe de 3 mois à 7 mois. La proposition avait été validée par l'Assemblée nationale 2 semaines plus tôt.
Okay.
Par contre, là, les deux chambres du Parlement n'ont pas abouti au même texte, même s'ils s'entendent sur le fond, c'est que le désaccord porte sur le type de délit pour être considéré comme, je cite, « une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public ». Les députés, eux autres, veulent cibler les étrangers condamnés pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins 3 mois d'emprisonnement. C'est ce que prend le gouvernement Macron aussi. Puis, pour des raisons de proportionnalité, les sénateurs, eux, veulent plutôt cibler les crimes et certains délits punis d'au moins 5 ans de prison. Donc, sont plus, modérés, disons.
Ouais.
Donc, il devrait y avoir là, éventuellement une commission mixte paritaire pour arriver à un compromis. Je termine avec les résultats d'une vaste enquête de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et de l'Institut national de la statistique des études économiques, l'INSEE, qui démontre une bonne partie des idées reçues sur l'immigration en France. L'étude intitulée « Trajectoire et origine 2 », parce qu'il y en a eu une, la dernière, ça remonte à 2008-2009,
okay,
analyse les parcours des personnes immigrées et leurs descendants en France. Ça a été mené en 2019 et 2020 auprès de 27 000 personnes âgées de entre 18 et 59 ans. 32% sont originaires du Maghreb, 28% d'Europe, 19% d'Afrique subsaharienne, 16% d'Asie et 5% du reste du monde. Le premier mythe démonté, le supposé communautarisme de la population immigrée.
Ben oui.
On découvre en fait que 39% des personnes immigrées ont un conjoint d'une autre origine, dont 29% sans ascendance migratoire. Puis pour la deuxième génération, ce taux passe à 59%, dont 45% sans ascendance migratoire. Bref, c'est la mixité qui domine et pas l'entre-soi communautaire. Et cette mixité-là se retrouve aussi dans les relations amicales, contrairement aux Français d'origine. Plus de la moitié des Français dit de souche déclare que presque tous les membres de leur cercle amical sont de la même origine qu'eux. Ben, c'est le cas seulement d'une personne immigrée sur 5 et d'un descendant d'immigrés sur 10. Mmh. Donc, l'entre-soi, c'est plutôt du côté des Français pur jus. Et selon l'enquête, un Français sur 3 a un lien direct avec l'immigration sur 3 générations, entre autres grâce aux unions mixtes. Autre idée reçue, la hausse des arrivées irrégulières en France. Or, sur les 27 000 personnes interrogées, une personne sur 5 seulement a déclaré avoir été sans papier au moment de son parcours en France.
Okay.
Une proportion qui reste stable dans le temps. En effet, seulement 9 % des immigrés sont entrés dans l'Hexagone sans visa, ce qui est très peu. Et en fait, c'est le passage en situation irrégulière, il se produit plutôt pour la moitié des cas après être installé en France, même au-delà des 6 premiers mois. Donc, c'est beaucoup plus complexe que les préjugés qui sont véhiculés. Il y a beaucoup d'autres données qui sont compilées dans le rapport, là, notamment concernant les interruptions dans le droit de séjour, le taux de diplomation, l'accès au logement et les discriminations. Vous pouvez lire un résumé là, succinct sur le site d'Info Migrants sous le titre « Dégonfler une partie des fantasmes, une vaste enquête contredit les idées reçues sur l'immigration en France ». Le rapport complet est aussi téléchargeable sur le site de l'INED, mais bon, fait quand même 100 pages, là, fait que vous pouvez toujours vous rabattre sur le dossier de presse qui, lui, fait 74 pages.
Là, là.
Mais toi, t'as lu le rapport complet, j'imagine.
Bien sûr.
En fin de semaine, oui.
Fait que, bon, excusez, c'était dense comme...
Non, mais c'est intéressant, les statistiques. Ouais, on n'entend pas ça souvent. Donc, merci d'avoir lu ce rapport.
Fait qu'on s'en va en musique?
Oui, vas-y.
Avec la poète et parolière californienne Aja Monet, dont le plus récent album intitulé « The Color of Rain », qui c'est très poétique comme titre, est paru en mai et figure à la 24e position du palmarès international de choc. Aja Monet va être en concert à Montréal le 4 juillet au Studio TD, dans le cadre du Festival de Jazz.
Ben oui.
Gratuitement.
Non, pas au studio.
Oui,
TV. Au studio.
Oui, j'ai vérifié. C'est un spectacle de fin de soirée.
C'est vrai?
Ah, ouais, ça se peut.
Bon, ben écoutez, Gara chez vous, si vous aimez.
On appelle ça l'Astral aussi, oui.
Nous appelions.
Ouais.
Alors, si vous aimez ce que vous allez entendre, on va justement entendre la pièce Working Class Musicians.
Working class musician, working class musician, working class musician, working class musician, working class musician. Labor of love, a labor it is, working the night shift, mills of music venues, clubs and bars, farmers of feelings, trumpet trigger fingers, grappling brass valves, prodding, pressing, deafened by the rattling roar in ahead, toiled by a tired heart, resting between the swinging rounds of rhythms, bless the drummer's hands, trolling a kit on the subway in the snow. The keys player's fingers homesick for cityscapes, maraca wrists, clap stack, duct taped instruments, the message as the medium. Everything is practice for stopping bullets, blossoming heartbeats, freedom music. While the Republicoons and the Democrazies argue the complexion of money, we float between classes and corners, from caviar to canned beans. E minor is a relative of G major. They family. In sound check, we split the difference. Just a tad of reverb, EQ the wedge. Living upright in the basement, a backwards world, music that wrinkles time. Reporting live from the poet's eye. Hand-me-down sounds found by an ear to the underground. Shedding off-the-cuff poems on napkins using hotel pens. A language in my mouth. Juggling rotten wisdom teeth. fluorescent folks singing the scab of running scales, a sore throat at the merch table, selling seashells that carry the sound of slave ships docked by the seashore. When your address is your suitcase, the only religion is the show must go on. I want my bread and my roses too.
Donc, ça va être le mois de juin. Il y a quand même plusieurs choses intéressantes. Je vais commencer avec une conférence qui s'appelle « Le quotidien des Palestiniens, palestiniennes de Massafer Yatta », un témoignage de Niyad Ben Salah. Ça se passe le mercredi 17 juin au Centre Saint-Pierre dès 19h. C'est aussi disponible en web diffusion. Organisé par la Coalition du Québec Urgence Palestine et la Coordination Israël-Territoire palestinien occupé d'Amnesty International Canada francophone. En octobre-novembre 2025, Mme Ben Salah a séjourné dans la région de Massafer Yatta, au sud de la Cisjordanie occupée. Sa conférence est un témoignage de la vie des Palestiniens sous occupation militaire avec le support de photos, vidéos, témoignages qui a été pris là-bas. Donc,
ça va être vraiment intéressant.
Ça va être intéressant, oui, tout à fait. Le lendemain, le 18 juin, à 18h, aux révoltes sur Saint-Laurent, Rage Climatique fera un double lancement. Une version mise à jour de son zine portant sur l'actualité des luttes autochtones en cours, ainsi que de son journal La Foresterie, Cassadone, Blocon, Domtar. La bouffe va être fournie par les greniers agricoles, et donc c'est dès 18h le 18 aux révoltes sur Saint-Laurent. Le lendemain, grosse semaine la semaine prochaine, webinaire L'impérialisme guerrier, refuser d'y consentir. Le 19 juin, c'est à midi par exemple, organisé par le collectif 19 mars qu'on a reçu à l'émission il y a quelques semaines. Depuis les premiers jours de 2026, de nombreux actes de guerre commis par les États-Unis et Israël ébranlent l'ordre mondial et font tomber les derniers garde-fous contre la loi du plus fort. Je les cite. Dans ce webinaire qui s'inscrit dans le prolongement de notre événement intitulé « Gaza de la faillite globale au devoir d'humanité », nous tenterons d'éclaircir différentes questions avec Benjamin Burbaumer, économiste et maître de conférences à Sciences Po Bordeaux, Statis Kouvelakis, chercheur indépendant et philosophe en philosophie et militant au sein de la France insoumise, et Françoise Vergès, politologue et autrice féministe décoloniale.
Gros panel.
Oui, elle, je sais pas, ça va être en visio, j'imagine. Elle sera peut-être pas à Montréal, mais ça se passe donc, ça se passe seulement en visio, finalement. Donc, c'est ça, ça doit être déjà un peu partout. Donc, je rappelle que c'est le 19 juin à midi pour ce webinaire sur l'impérialisme. Sinon, la journée d'action transnationale autour de l'accord États-Unis-Canada-Mexique, la CEUM. La manif s'appelle « La garde des tarifs non, la solidarité oui ». Tandis que la CEUM est partiellement renégociée, les craintes que les intérêts des entreprises ultra-riches prennent à nouveau sur ceux des populations et de l'environnement sont grandes. En juin, les organisations états-uniennes, mexicaines et canadiennes prennent les devants pour exiger que les intérêts de la population soient au cœur des négociations. Donc, il y a des manifs un peu partout cette fin de semaine-là, partout en Amérique du Nord, donc autant au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Attaque Québec organise un rassemblement à Montréal le 20 juin au programme Activités éducatives et célébrations culturelles. Ça se passe devant le complexe Guy Favreau de 15h à 17h le 20 juin. Et pour avoir plus d'infos sur l'initiative Days of Solidarity partout en Amérique du Nord, allez sur leur site daysofsolidarity.org. Le 1er juillet 2026, c'est la Coalition contre le logement cher, la COLOC, tiendra la première manifestation. La première manifestation, manifestation de son histoire, simultanément à Montréal et à Québec. C'est une nouvelle coalition avec le RECLAC, le FRAPRU, puis un paquet d'organisations dans le logement. À Montréal, donc 1er juillet, à 11h, au métro L'Assomption, avec un barbecue festif. Et à Québec, à 11h aussi, devant le tribunal administratif du logement, sur le boulevard René-Lévesque-Est, à Québec. Donc, voilà, et je vais terminer avec des pétitions. Exiger la libération d'une militante féministe et défenseur des droits LGBTIQ+. Elle s'appelle Ibdissam Betty Lashgar. Elle purge une peine de 30 mois d'emprisonnement après avoir été déclarée coupable d'atteinte à l'islam parce qu'elle a publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle portant un t-shirt avec le slogan Allah est lesbienne. La police marocaine...
Oh, au Maroc, okay, ouais, je me
la police marocaine a arrêté Lashgar le 10 août dernier et un procureur a donné son placement en détention. Le tribunal a déclaré coupable d'atteinte à la religion islamique ou à des symboles sacrés au moyen de publication. Elle a été condamnée à une peine de 2 ans et demi de prison assortie d'une amende de 50 000 dirhams, environ 4 600 euros quand même. La cour d'appel a confirmé le jugement, donc elle est toujours emprisonnée et c'est un appel de Amnesty International. Et je vais parler un peu de Cuba, ça va vraiment pas bien à Cuba, puis on en a pas parler à l'émission beaucoup, mais deux pétitions qui roulent actuellement, une par le collectif Stop au blocus contre Cuba, qui est destinée à l'ONU. C'est un extrait. Comme depuis des nombreuses années, la levée de l'embargo contre Cuba a été votée par une majorité écrasante des pays membres des Nations Unies, mais toujours actif comme embargo parce qu'il y a un pays qui veut rien savoir. Ça, c'est une première pétition. La deuxième, c'est blocus pétrolier américain. Le Canada doit s'allier à d'autres pays pour aider Cuba. Donc, on dit, joignez-vous à nous pour enjoindre au gouvernement canadien d'accroître l'aide alimentaire et médicale à Cuba et mener des efforts diplomatiques auprès d'autres pays pour mettre fin au blocus et atténuer l'impact des sanctions et aussi collaborer avec les Nations Unies, le Mexique, la Colombie et d'autres pays pour fournir du carburant à Cuba. C'est une pétition adressée à Mark Carney et Anita Anand. Donc, voilà. Fait que beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux. Puis, en attendant, il y a du monde qui en arrache, hein, un peu partout. Hein? Fait que, on termine l'émission dans quelques secondes. Donc, on va terminer tranquillement avec une pièce bien pesante dans deux minutes, le temps de se saluer comme il faut. Je voulais juste souligner, en terminant comme dernier petit sujet, on a beaucoup parlé de la flottille pour Gaza dans les dernières semaines. Il y a eu toutes sortes d'horreurs et d'absurdités et d'abus. Nous, on avait appuyé les apatrides, comme beaucoup d'organisations, beaucoup de médias aussi alternatifs, la flottille en tant que telle. Ça a eu quand même un impact important un peu partout dans le monde. On a vu autant les violences de l'armée israélienne après le kidnapping en international des militants sur les bateaux prison. On a vu les violences à Bilbao de la police basque au retour. Ils sont revenus. Ils sont fait retaper dessus.
Par leur propre police. Hein?
Exactement, à l'aéroport de Bilbao. Allez voir ça, vous n'avez pas vu ça. C'est assez spectaculaire, malheureusement. Puis je voulais juste vous suggérer un article de La Converse du 31 mai qui s'appelle « Global Sumud, à quoi servent encore les flottilles pour Gaza? » C'est un article basé sur une militante canadienne qui était dans la mission. Un journaliste qui est à Gaza et aussi une Palestinienne de Montréal, donc des regards croisés, des analyses croisées.
Ouais.
Fait qu'un long article à quoi servent encore les flottilles pour Gaza, même s'ils ne réussissent pas à aller sur place, ils ont quand même un impact politique en général. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à Marie-Ève pour tout son contenu et ses choix musicaux.
Merci. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Merci à toi, Mathieu.
Ça fait plaisir. Merci, Simon, pour cette aide providentiel.
Oui, providentiel.
Puis mon contenu, non, c'était pas intéressant.
Ben, la mise en ordre était bonne. tes questions commentaires étaient vraiment, vraiment exceptionnelles.
Merci, merci. Vous étiez exceptionnel, vous aussi. En tout cas, je me reprendrai la prochaine fois.
Ça, c'est sûr.
Parlant de prochaine fois, Mathieu.
Ben, c'est ça. On sera pas là pour les deux prochaines émissions à cause encore de vacances, voyages et compagnie. Donc, peut-être le 23 juillet. On va s'en parler d'ailleurs autour d'une bière tantôt. On va négocier ça. Donc, ça serait le 23 juillet, donc dans à peu près 6 semaines. Sinon, ben, vous pouvez nous écouter évidemment sur le site de Choc, sur notre site apatridesanonymes.info, nous envoyer des courriels à apatridesanonymes@trezis.ca, consulter notre page FB pour des actualités. On va continuer
à en
mettre.
Oui, c'est ça. Si vous vous ennuyez trop, allez écouter des balados que vous n'avez pas écouté.
Dans la dernière année, on en a plusieurs quand même. Et oui, c'est bon.
Ah, j'allais rien dire, mais je pense qu'on en a plus de 150. Donc,
ah oui, hein, ouais, on est rendu, oui. Merci à Choc, entre autres. Donc, ben voilà, fait qu'on va se laisser sur une dernière pièce un peu plus longue.
Un peu plus pesante,
c'est ça? Plus pesante, c'est deux mastodontes, sans parler d'un autre groupe, de la scène métal, les Melvins et Napalm Death, qui ont décidé de faire un album ensemble, mais pas une tune chaque, là, vraiment ensemble. La pièce qu'on entend s'appelle Rip the God. L'album s'appelle Savage Imperial Death March, sorti en avril dernier, tout récemment, sur Ipecac Records, compagnie 10 de Mike Patton. Donc, le Death Grindcore qui rencontre le Sludge Noise expérimental.
C'est un bon mélange, moi, j'ai trouvé.
Oui, on reconnaît les bouts de chacun. Puis
c'est assez efficace.
Exactement. Malheureusement, il n'y a pas de tournée conjointe actuellement.
Non.
Mais on a pu voir Marie Ewan et Pam Death au Fairmont la semaine passée à Montréal. C'était déjà bien.
C'était pas mal bon.
Puis les Melvins, ils viennent. Ne les manquez pas non plus. Ils sont en tournée nord-américaine, mais il n'y a pas de date pour Montréal ou Toronto. Donc, ben voilà, on va se laisser avec la pièce Rip the God. Et puis, on va souhaiter une belle soirée à tous nos auditeurs et auditrices. Et un bon début d'été.
Oui. À bientôt. J'ai de la crème glacée.
OK.
Une bonne soirée.
À bientôt.